lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Des rondes. Bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
En grimpant par rapport à tout ce que tu peux ressentir dans l'escalade et tout ce que ça peut te procurer comme sensation. Au niveau de ton engagement moral, de ce que tu ressens sur le plan physique. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps. C'est un mode de vie. J'arrive à retrouver tous les besoins qu'on peut avoir si tu veux en tant qu'être humain. Tu vas faire une voie très dure. Tu auras le plaisir justement de l'expression corporelle, la défense physique, qui fait qu'en fait, ça va te créer de petits besoins. Tu vas apprécier en sortant d'une voie un verre d'eau, un sandwich. Et bon, ça c'est intéressant à l'époque à laquelle on vit d'avoir de petits besoins, je crois. Il y a une prise de conscience au niveau des plaisirs simples, en fait, qui suffisent très bien pour pouvoir vivre.
Il y a près d'un siècle, les Genevois pratiquaient la varappe aux salèves. Les chamoignards commençaient à grimper sur des parois au fond de leur vallée et les Parisiens s'escrimaient sur leur premier rocher en forêt de Fontainebleau. Changement total d'ambiance, là. L'escalade sur blocs et falaises existait déjà, mais constituait un entraînement pour des ascensions plus ambitieuses. Elle n'était pour les alpinistes, une fois en montagne, qu'une technique en vue de l'exploration de nouveaux territoires. La fin de la grande époque de l'alpinisme a coïncidé avec le début de l'histoire de l'escalade moderne. Il a fallu attendre que tous les sommets et grandes parois de nos contrées soient gravis au cours de la seconde moitié du XXe siècle pour que, perdant sa fonction principale et devenant inutile, l'escalade soit considérée pour elle-même. Il est déjà difficile de comprendre pourquoi certains risquent leur vie pour gravir des montagnes, mais s'il n'y a même plus l'attrait de la cime, finalement assez naturel, que lui reste-t-il? Edlinger nous a montré la voie. Les grimpeurs modernes ne vont nulle part. C'est dans la manière d'arriver en haut que se trouve la clé.
En 2010, j'ai tenté avec des amis brésiliens de faire la première répétition de Place of Happiness, une grande voie ouverte un an auparavant par le fameux grimpeur allemand Stefan Glowacz et certains autres. Entre mon premier vol et l'escalade de cette voie, j'avais appris pendant 20 ans à apprivoiser le vide et même à l'aimer. À chaque relais, il était grisant désormais, je le caressais du regard tel un fauve soumis à mes pieds. Je jouissais du paysage suspendu dans les airs. Autour de moi, des dizaines de monolithes de granit surgissaient de la végétation semi-aride du Sertão. Ils semblaient avoir poussé comme des baobabs dans la plaine, au hasard du vent éparpillant les graines pour égayer cette contrée isolée qui aurait pu paraître monotone. Lorsque j'entame en tête la longueur clé de la voie, 60 mètres en C, une cotation qui n'est pas extrême mais déjà difficile, je me concentre. la peur ancestrale du vide redevient puissante quand l'équilibre est précaire. De surcroît, pour pimenter l'escalade, Stéphane a posé bien peu de protection lors de la première ascension. Je grignote mètre après mètre cette longueur grandiose et interminable. Chaque spit est un îlot de tranquillité où je repose mon esprit avant d'entamer la traversée de l'océan de granit déversant qui me sépare du havre suivant. Je suis à 500 mètres du sol, à 7 ou 8 mètres au-dessus du dernier spit, et tout mon être est accaparé par l'escalade. Je m'élève en oubliant tout. Le vide a disparu. Moment de grâce où je suis seul au monde. Il n'y a plus que ce mur orange qui m'emmène vers un bonheur d'une rare intensité. Dans le haut de la longueur, la paroi s'assagit. Elle devient verticale. Je suis à moins d'un mètre du dernier spit. Je trouve enfin une prise où je peux enfiler plus d'une phalange de mes doigts. Je pousse un soupir de soulagement et savoure déjà ma réussite. Soudain, une douleur violente et subite, une crampe dans l'avant-bras gauche. Je change de main, mais la crampe gagne en quelques secondes l'autre avant-bras. Désespéré, je jette un coup d'œil vers le bas, je ne vois même plus le dernier spit où passe ma corde, à une bonne dizaine de mètres de moi. Je regarde les quelques mouvements faciles qui me séparent du spit suivant. J'ai traversé une mer à la nage et vais mourir en arrivant sur la plage. Mes bras paralysés brûlent. Je hurle pour tenter d'expulser la douleur et ma rage, pour prévenir l'ami qui m'assure que je vais avoir besoin de lui. Et je m'éjecte sauvagement de la paroi. Je m'envole, c'est la délivrance. Je sens la vitesse, je ne vois plus le vide, je le touche, je l'enlace, avec mes bras et tout mon être. Une, deux secondes, la corde met une éternité à se tendre. Je tombe en chute libre, mais la paroi est si surplombante que j'en reste éloigné. La corde finit par stopper ma chute avec souplesse. Suspendu au milieu du vide, à plusieurs mètres de la roche, je reste immobile quelques instants avant de reprendre mes esprits. Je me rends compte que je suis tombé d'une trentaine de mètres sans me faire une seule égratignure. Cette chute, comme toutes celles qui se terminent bien, montre que le vide est dans la plupart des cas un allié du grimpeur. Pour l'alpiniste, le kayakiste en eau vive ou le skieur de pente raide, la recherche de la difficulté implique l'acceptation d'une plus grande prise de risque. L'escalade moderne est l'une des seules activités physiques pratiquées dans la nature où cette règle n'est pas vérifiée, bien au contraire. Presque toujours, plus l'adepte s'élève dans l'échelle de cotation, plus la paroi escaladée est verticale, voire déversante. Moins il risque de toucher la paroi et de se blesser s'il tombe. Quand il est suffisamment loin du sol, il plane un court moment, puis est retenu en douceur par sa corde dynamique.
Gaz, c'est le vide, c'est la hauteur à laquelle tu te situes sur une paroi et qui fait qu'en bas, il y a du gaz, il y a du vide, voilà. Et c'est beaucoup plus difficile parce qu'au niveau concentration, tu n'as plus tout la même notion des équilibres et plus la même notion d'engagement. Surtout quand tu es en solo dans une paroi qui est très haute, tu sais très bien que tu n'as pas de point de repos, de vire à proximité et sur le plan moral, c'est beaucoup plus dur de te concentrer en sachant que tu es complètement engagé.
En salle, le débutant découvre aussi la verticalité et le vide, et donc l'apparente contradiction inhérente à l'escalade, être sur terre mais loin du sol. Dès qu'il commence à s'élever, quittant son élément naturel le plus souvent, il ressent immédiatement un certain malaise. les mécanismes instinctifs de la peur s'enclenchent. Depuis que nos ancêtres sont descendus des arbres, le vide sous nos pieds est synonyme de danger. Au début, suspendu à la corde, il ose à peine regarder vers le bas. Parfois, il abandonne sans délai car sa peur du vide est si forte qu'il pense qu'il ne pourra jamais la contrôler. Il peut aussi se décider à emprunter le difficile chemin d'apprentissage de la maîtrise de soi. Alors, il se répète 10 fois, 100 fois, que la corde, le baudrier et les spits sont solides, qu'il ne risque rien. Un jour, il ose chuter, même si la corde au-dessus de lui n'est pas complètement tendue. Puis, il commence l'escalade en tête, beaucoup plus déstabilisante puisque la corde protectrice est désormais en dessous de lui. Pendant des années, voire des dizaines d'années, il va lentement progresser en s'efforçant, comme le bouddhiste, de maîtriser ses émotions négatives, pour enfin dompter l'animal sauvage tapis au fond de lui-même. Un jour, peut-être, il n'aura peur que quand ce sera nécessaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'il sera confronté à un réel danger.
L'eau, la roche,
les yeux fermés, mes doigts se promènent sur les bombements les plus attirants. Ils cherchent, courent, caressent. Le désir monte et mes doigts s'arrêtent. Immobile, ils jouissent du contact avec la roche. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que le grimpeur peut développer une culture du rocher qui ressemble à celle du géologue. À la différence près que ce n'est pas la composition de la roche qui l'intéresse, mais son grain et les types de reliefs qui y sont sculptés. La roche est la matière naturelle qui présente la plus grande variété de textures. La sensation au toucher est différente à chaque fois. Son grain est comme le pore de la peau. C'est lui qui rend le rocher adhérent, presque vivant, au contraire de la plupart des matières lisses et artificielles, verre ou métal. L'adepte le caresse parfois avec le même plaisir que s'il s'agissait de l'être aimé. Ses doigts l'effleurent et quand le désir devient irrésistible, il commence enfin à grimper. À chaque mouvement de main, il a le privilège de découvrir un relief unique. Réglettes, baquets, gratons, cupules, monodoigts, bidoie, pincette, arrondi, inversé, à plat, goutte d'eau. Les mots utilisés pour désigner les types de prises ne donnent qu'une faible idée de l'immense diversité de l'anatomie de la roche. Ses formes sont aussi variées que les nuages. En les explorant, le grimpeur ressent probablement la même jubilation qu'un aveugle qui visiterait avec les mains la production infinie d'un sculpteur. Le grain très fin des roches sédimentaires leur donne la sensualité de la peau nue. Le calcaire en particulier, parce que sa composition fait qu'il peut être sculpté par l'eau, est la roche qui présente la plus grande variété d'aspects. Parfois, les prises semblent y avoir été façonnées avec l'unique dessein d'accueillir des mains humaines. À Tchéousse, comme à Kalymnos en Grèce, Siouriana en Espagne, Tahria au Maroc, ou à la Serra de Chipo au Brésil, qu'il soit gris, bleu, rose, noir ou orange, il procure aux grimpeurs des expériences inoubliables. Le granit, le gneiss et les autres roches cristallines ont d'ordinaire une texture rugueuse, parfois aussi abrasive qu'une râpe à fromage ou au contraire très lisse une fois polie par le passage d'un ancien glacier. Ces roches sont très résistantes à l'érosion et présentent souvent des lignes d'une pureté presque géométrique. Au Yosemite, il n'est pas rare de gravir une même fissure rectiligne pendant plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Dans le massif du Mont Blanc, la protogine a une chaleureuse teinte rouge qui contraste avec les glaciers alentour. Pour chaque type de roche, le grimpeur retrouve donc des similarités dans le monde entier. Et en même temps, sur chaque site d'escalade, en fonction de la géomorphologie locale, le rocher possède des caractéristiques uniques. Parfois, alors que sa composition est la même qu'ailleurs, les passionnés viennent du monde entier à un endroit bien précis pour goûter à un grand cru. Pendant près d'une quinzaine d'années, j'ai eu la chance, sans trop m'en rendre compte, de grimper tous les dimanches sur les blocs de grès de Fontainebleau. J'y prenais beaucoup de plaisir, mais c'était une routine. Je les trouvais trop petits et rêvais de ce que je n'avais pas, de hautes falaises ou de montagnes lointaines. Par la suite, en commençant à voyager, j'ai remarqué qu'en Australie ou au Brésil, mes confrères avaient des étincelles dans les yeux dès que je leur parlais de mon banal spot dominical. J'ai découvert que certains passionnés venaient du bout du monde pour passer 2 mois en Europe et restaient parfois les 2 mois à Blo, sans même aller visiter Paris. Après plusieurs années passées à l'étranger, je suis retourné sur les blocs de mon enfance et en constatant l'intensité de mon propre plaisir sur ce grès au grain et à la variété de formes extraordinaires, j'ai enfin compris que la forêt de Fontainebleau était l'un des plus beaux sites d'escalade au monde. Tous ces blocs, falaises et parois constituent un précieux patrimoine que nous avons hérité de la nature. Il s'est constitué très lentement et nous survivra. À côté de ces cathédrales de roc, nos églises les plus anciennes semblent aussi éphémères que des champignons au pied d'arbres pluriséculaires. Ceci dit, un projet de carrière ou d'infrastructure routière peut aussi les réduire à néant en quelques mois. Sur chaque nouveau site, le grimpeur va profiter d'un nouveau décor, apprécier un nouveau style, expérimenter une nouvelle matière, entrer dans un nouvel univers où il écrira lui-même son histoire. Une fois de retour chez lui, la liste des sites qu'il aimerait visiter un jour est toujours aussi longue. Cette liste constitue pour lui une source de motivation permanente, quel que soit son niveau de pratique. L'objectif du sportif est souvent de maîtriser la réalisation des quelques mouvements constituant la base de son sport, puis de les répéter sans cesse afin d'améliorer leur exécution et de tendre à la perfection. En escalade, l'enjeu est plus complexe. À l'infinité des variations de la roche répond par symétrie celle des combinaisons de gestes à réaliser pour s'y élever. Le grimpeur ne travaille pas à perfectionner un petit nombre de mouvements toujours identiques pour mieux courir, nager, sauter, lancer, tirer ou taper dans une balle. Il déplace ses 4 membres et son corps entier dans toutes les directions possibles de l'espace afin de se mouvoir sur une surface verticale en s'agrippant aux milliers de types d'aspérités différentes dont elle est pourvue. Le message délivré par le rocher est obscur pour le novice. En salle, les prises sont bien visibles, mais une fois en extérieur, il s'agit de les dénicher. Il demeure longtemps, tel l'archéologue déchiffrant des hiéroglyphes. Il observe l'énigme, touche ses figures antédiluviennes pour essayer d'en comprendre le sens, et sans même remarquer qu'il existe de nombreuses interprétations possibles, choisit la première qu'il trouve. En persévérant, il maîtrise bientôt les voies faciles. Sans réfléchir, ses mains commencent à se poser naturellement sur les bonnes prises et l'escalade, déshésitante et saccadée, devient souple et continue. Pour apprivoiser le vide, enrichir sa gestuelle jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, acquérir la souplesse, la forme et l'endurance nécessaires, il faudra gravir des centaines de voies différentes. Le grimpeur, débutant ou expert, est un musicien qui fait ses gammes. Il escalade un maximum de falaises différentes pour améliorer sa visualisation sur tout type de rocher et pour que les mouvements qui lui semblaient complexes au début deviennent des automatismes. Sur le calcaire, il apprend à poser avec précision les pieds dans des trous parfois minuscules, à prendre en pincette des prises verticales, à arquer plus ou moins ses doigts sur les réglettes, à croiser les bras quand il ne peut pas changer de main sur la même prise, à faire des mouvements de crochet, de drapeau ou de lolotte avec ses pieds et ses jambes. Sur le granit, il devra assimiler une gestuelle très différente, spécifique à l'escalade en fissure, en dièdre et en cheminée. Chaque mouvement type est comme un mot d'une nouvelle langue qu'on apprend à parler une langue qui, au fil de ses progrès, utilise de plus en plus les pieds et l'intelligence de la gestuelle en général, et de moins en moins la force. D'ailleurs, si les meilleures grimpeuses ont presque le même niveau que les hommes, alors qu'elles disposent à poids égal d'une puissance moindre, c'est probablement qu'elles compensent cette différence physique par une gestuelle plus efficace. Quand il escalade à vue, c'est-à-dire sans connaissance préalable de la voie, le grimpeur improvise. Suivant sa morphologie, son inspiration et le hasard d'une prise sur laquelle il mettra une main plutôt qu'une autre, il invente sa propre séquence de mouvements. Dans la fluidité et l'inépuisable diversité des mouvements, il y a une volupté certaine, parfois observée, souvent ressentie. Lorsqu'on évolue dans un niveau de difficulté que l'on domine, le corps semble s'exprimer seul et de façon spontanée. L'immense plaisir ressenti vient de l'impression de glisser sur la roche en la caressant, de la sensation de ne jamais avoir été aussi proche de la nature, puisque l'on a appris à en parler la langue.
L'escalade à haut niveau, tu peux pas te permettre, par rapport à la vision qu'il y a des prises, de faire des mouvements logiques. Quand ça devient très dur, tu es obligé d'aller très vite. Et ce qu'il faut, c'est avoir une bonne vision des prises. Et après, il faut laisser faire ton intuition, ton instinct, si tu veux. Te laisser aller de prise en prise. Ton corps, bon, qui a l'habitude de grimper, assimile les équilibres très vite et tu vas d'équilibre en équilibre. Ce qui est le plus important, d'après moi aussi en escalade, c'est quand même la façon dont tu passes. Le but, c'est pas de passer un passage crispé sur des prises, de se tirer, ça n'a aucun intérêt si tu veux. L'intérêt, c'est justement d'essayer d'être le plus esthétique, le plus harmonieux possible. En fait, c'est une expression corporelle au même titre que la danse, sauf que la chorégraphie, bon, est dictée par les prises, quoi. C'est un opéra vertical.
Pendant longtemps, j'ai pratiqué l'escalade de manière spontanée, comme mes parents et tous les gens autour de moi. Je grimpais à vue les voies ou les blocs qui me semblaient les plus beaux sur chaque nouveau site que je visitais. Et après une chute, je ne retournais jamais essayer le passage qui m'avait résisté. Mon plaisir résidait dans la découverte permanente. En arrivant au Brésil en 2006, dès les premiers mois, mon nouveau cercle d'amis était constitué, pour l'essentiel, de sportifs motivés par la recherche de la performance. En salle, ils suivaient des plans d'entraînement minutieux. En falaise ou sur les blocs de la région, ils pratiquaient surtout l'escalade après travail, c'est-à-dire qu'ils répétaient de nombreuses fois le franchissement des passages difficiles pour découvrir la séquence optimale de mouvement et essayer de l'enchaîner ensuite depuis le bas. Ils réalisaient ainsi des blocs ou des voies qui leur étaient impossibles de réussir à vue. Durant les premiers mois, j'étais sceptique. À quoi bon vouloir à tout prix progresser alors que je me sentais déjà comblé par ma passion ? Caché derrière cette recherche effrénée de la difficulté, n'y avait-il pas une banale quête de satisfaction de leur ego ? Finalement, je me suis vite laissé entraîner dans ce jeu pour une raison simple. Sur la plus belle falaise de la région où je me rendais le plus souvent, à Cerro do Chipo, les voies étaient magnifiques mais assez peu nombreuses et la plupart trop difficiles pour que je les réalise à vue. J'ai alors commencé à les travailler pour un jour espérer être à leur hauteur. Mon objectif initial n'était pas forcément d'accéder à une cotation que j'avais jamais atteinte, mais plutôt de rester concentré quelques semaines sur la même voie qui constituait, grâce à l'esthétique de son escalade, une grande source de motivation. Rapidement, j'ai une fois de plus constaté à quel point, comme dans beaucoup d'autres disciplines, la mémoire est une faculté extensible. Les premières semaines, j'éprouvais des difficultés à retenir une séquence de plus de 5 mouvements. 3 mois plus tard, lorsqu'un ami me demandait les méthodes d'une voie de 30 mètres, j'étais capable de retenir des séquences 10 fois plus longues en quelques minutes, simplement en regardant le rocher et en m'imaginant en train d'effectuer l'escalade. J'ai vite aimé passer des heures dans la même voie. Je réalisais les séquences de mouvements que d'autres grimpeurs me dictaient, en essayant de les améliorer et de les adapter à ma morphologie, ou de trouver une autre méthode, plus compliquée mais moins éprouvante. En travaillant des voies au début trop difficiles pour moi, je me suis aussi heurté à mes limites physiques, soit parce que je n'avais pas assez de résistance, soit parce qu'une prise était trop petite pour que je réussisse à la tenir, mes bras n'étaient pas capables de me porter jusqu'en haut. De la même manière que j'ai dû exercer ma mémoire et améliorer l'efficacité de ma gestuelle, j'ai donc commencé à m'entraîner en salle pour acquérir la force et l'endurance qui me faisaient défaut. Les exercices de musculation, qui encore peu de temps auparavant me paraissaient ridicules, ont soudain gagné du sens. Ils devinrent le passage obligatoire pour espérer un jour enchaîner mon projet. J'avais un objectif, et le simple fait de travailler à l'atteindre et de penser le réaliser un jour constituait une source de fierté et de joie. De l'expression « après travail », je n'avais saisi auparavant que la connotation un peu négative, laborieuse, car c'était un style moins spontané et donc forcément moins élégant que l'escalade à vue. Mais dans le terme « travail », j'ai compris qu'en escalade aussi il y avait un aspect constructif, voire productif. Le travail d'un bloc ou d'une voie est une étude pour apprendre, progresser et parachever quelque chose. Le grimpeur n'est plus seulement dans la sphère du plaisir de l'instant. Il évolue aussi dans le domaine de l'accomplissement personnel. Et celui-ci n'est évidemment pas réservé aux meilleurs. Un grimpeur de 5C et 6A pourra avoir, par exemple, le plaisir de l'escalade d'une voie en 6B s'il s'y exerce quelques jours. Mon souvenir le plus marquant n'est pas une des voies de près de 1000 mètres de haut que j'ai réalisé avec plusieurs jours en paroi, mais une autre bien plus courte, à laquelle j'ai consacré tous mes week-ends pendant plusieurs mois. C'était à la Serra do Chipo, au Brésil, la veille de rentrer plusieurs mois en France. 30 mètres, entièrement surplombant. 73 mouvements que je connais par cœur au centimètre près me séparent du sommet, mon Graal. Un enchaînement complexe de jetés précis et de repos aléatoires, de micro-cupules douloureuses et de baquets fuyants. J'aimerais être serein, mais mon cœur bat trop fort. Gonflé d'une immense détermination, je m'élance à bon rythme. Mon regard effleure le rocher, seulement pour corroborer ce que me dicte ma mémoire. J'exécute les mouvements de la chorégraphie que j'ai apprise avec autant de méticulosité qu'une ballerine. Mais je l'exécute de façon un peu mécanique. Je suis très concentré, peut-être trop. Cette voie est devenue une étape arbitraire sur un chemin vers je ne sais quel épanouissement. Dès que j'ai un moment tranquille, pendant la journée ou la nuit, je ferme les yeux et visualise les mouvements qui m'emmèneront un jour à son sommet. Maintenant, mon escalade est tendue, au point que je n'en éprouve même plus de plaisir. Mais est-ce si important ? Si j'enchaîne cette voie après tant d'échecs et d'énergie dépensées pour un seul but, mon bonheur sera d'un autre ordre. Au premier passage clé, pour effectuer un mouvement difficile, je dois dynamiser, alors que normalement je le réalise en statique. Pourtant, je me sentais bien au matin, c'est incompréhensible. Je suis à moitié découragé. Quelques mètres plus haut, comme prévu, mes bras agonisent et je chute. Un juron m'échappe. C'est d'abord la rage, puis le désarroi. Pendant quelques secondes, je suis mauvais perdant. De retour au sol, je me résigne. L'enjeu était si dérisoire de toute façon. Par un sentier, je monte en haut de la falaise. J'observe la forêt à perte de vue qui s'enflamme là où le soleil se couche. Je reste un long moment seul. Je suis serein à nouveau. Un cri me tire de mes pensées. C'est mon compagnon de cordée qui m'appelle pour me dire qu'il faudrait aller enlever les dégaines avant la nuit. Je descends et recommence l'escalade. Je ne grimpe plus pour enchaîner la voie, simplement pour récupérer mon matériel. Je n'ai plus d'obligation envers moi-même et je suis complètement détendu. J'ai l'impression d'être moins précis dans mes mouvements, mais paradoxalement, mon escalade est plus fluide. Les minutes passent à mesure que j'avale les mètres de rochers, la falaise devient aussi rouge que le soleil. La délicieuse brise du soir rafraîchit ma peau brûlante. À ma grande surprise, je réussis à tenir les prises que j'avais lâchées une heure plus tôt. Plus haut, mes bras tétanisés aimeraient capituler, mais c'est ma tête désormais qui désire tant la réussite qu'elle va les emmener jusqu'au sommet. Dans les 10 derniers mètres de la voie, je crois tomber à plusieurs occasions. Chaque nouvelle prise est une lutte acharnée, accompagnée d'un grand cri. Mon compagnon en bas crie encore plus fort que moi pour me porter. Nous sommes deux singes dans la forêt hurlant pour effrayer un ennemi invisible. J'avance sans comprendre avec quelle force je parviens encore à m'élever puisque je pensais avoir atteint ma limite physique plusieurs mètres auparavant. Pour effectuer le dernier mouvement, je pousse un dernier râle et atteins l'ultime prise de la voie au moment où le soleil disparaît. Je lance encore un cri différent des autres et je pleure. J'avais fait le deuil de ce bonheur et voici qu'il m'est revenu avec autant de violence qu'un boomerang.
À l'époque de l'alpinisme classique, les noms des voies étaient plus simples à donner. Ils désignaient des éléments de morphologie de la montagne ou reprenaient le patronyme du premier ascensionniste qui aimait laisser ainsi une trace de son exploit. Arête Sud ou Pilier Bonatti, par exemple. Aujourd'hui, en haute montagne comme en falaise, tous les ouvreurs donnent des noms originaux à leurs voies. C'est par ce nom propre qu'elles vont, comme une œuvre d'art, commencer une vie autonome en s'émancipant de leur créateur. Grâce au moment intense qu'il y passe et à la lecture originale qu'il en a, le grimpeur les fait un peu siennes. A posteriori, l'ouvreur est alors récompensé de ses efforts. La satisfaction profonde donnée du plaisir est à ses yeux bien plus précieuse qu'une rémunération financière. L'ouvreur en falaise ou en paroi endosse une responsabilité vis-à-vis des autres ouvreurs et des futurs répétiteurs. Il se doit de trouver la plus belle ligne même si la paroi est complexe, et de ne pas gâcher une ligne esthétique par un équipement incohérent. Pour ça, suivant la raideur de la paroi où il désire tracer un nouvel itinéraire, il lui faudra avant tout posséder le niveau suffisant pour ne pas avoir recours à des bricolages qui dénatureraient le résultat final. S'il n'en est pas capable, il devra abandonner son projet et laisser passer un autre confrère, consoeur, plus fort qui terminera la voie avec élégance et éthique. Certains alpinistes ont malheureusement brillé par leur arrogance. C'est le cas de Cesare Maestri, lors de ses 100 tentatives d'ascension du Cerro Torre en Patagonie. Souvent considérée comme la plus belle montagne du monde, cette grandiose flèche de granit est aussi l'une des plus difficiles à gravir. Elle aurait mérité une première ascension magistrale par l'un des meilleurs grimpeurs du monde, avec le minimum de moyens artificiels. Maestri a écrit l'histoire différemment. Lors de sa seconde tentative en 1970, plutôt que d'échouer au pied d'un mur beaucoup trop difficile pour lui, il a préféré hisser un compresseur de 180 kg pour cribler le rocher de centaines de pitons à expansion, non pas pour escalader la montagne, mais pour tenter d'atteindre son sommet en fabriquant une échelle. Et pour la deuxième fois consécutive, il est redescendu du Cerro Torre en disant qu'il avait conquis la cime. Tout le monde l'a fêté en héros, alors qu'on a su plus tard qu'il n'était jamais allé au sommet. Ces pitons absurdes sont restés plus de 40 ans plantés sur le flanc de Cerro Torre. Quitte à utiliser des moyens artificiels aberrants, il aurait pu y aller en hélicoptère. Au moins, il n'aurait pas laissé de traces. C'était heureusement les derniers soupirs d'un certain genre d'alpinisme, où l'objectif était de vaincre les montagnes par n'importe quel moyen, et où le vocabulaire employé pour conter les récits à la gloire de quelques surhommes était toujours guerrier. Depuis 2012, les pitons de Maestri ont finalement été arrachés. Le Cerro Torre est désormais débarrassé de ses verrues.
À l'opposé, il y a des ouvreurs qu'on aimerait remercier tant ils nous ont procuré de plaisir à travers leur voix. Quand par exemple je vais grimper une voix de Michel Piola, que je ne connais pas encore, je ressens le même enthousiasme que quand je commence le nouveau livre d'un auteur que j'apprécie. Car je suis à peu près sûr que je vais passer un bon moment d'escalade.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Et voilà, bonsoir, vous êtes maintenant en direct d'un indirect d'une émission de Lu et Approuvé. Parce que nous aussi on part en vacances, justement on part grimper de ci, de là dans les montagnes, et c'est pour ça que ce texte nous a plu. Voilà, quelques réflexions autour de l'escalade.
Ouais, alors c'est un livre qui s'appelle « La grâce de l'escalade » d'Alexis Loirot qu'on vous a lu, et qui est sous-titré « Petite prise de position sur la verticalité et l'élévation de l'homme ». Voilà, et donc c'est dans la collection « Petite philosophie du voyage » aux éditions Transboréales. Et alors on a plein de références à donner. Tout d'abord, vous avez pu entendre des extraits donc du coup de Edlinger, un fameux grimpeur...
Patrick, ce
cher Patrick, fameux grimpeur désormais décédé mais pas dans la pratique de l'escalade, qui avait fait l'objet de plusieurs films en tout cas, dont deux de Jean-Paul Janssen, réalisés tous les deux en 82, des documentaires d'une petite demi-heure que vous trouverez sur internet facilement. Le premier s'appelle Opéra Vertical, le second La vie au bout des doigts. Et donc voilà, c'est des extraits de ces deux films. Et d'ailleurs, la musique que vous avez pu entendre aussi, un peu électronique, bizarre, était de la même époque, forcément, de 78, et elle était donc dans ces films-là, et donc c'était de Kraftwerk, les pionniers de la musique électronique. Ça s'appelle The Robots, et c'était la version single de cette piste.
À écouter en stéréo.
À écouter en stéréo au casque. Voilà, et puis vous avez pu aussi entendre des promenades sonores derrière nous, ou pendant des petites pauses, et il s'agit d'extraits de l'émission H1000, superbe émission que vous retrouvez sur Canal Sud chaque mercredi matin à 10h30, et donc c'est des randonnées sonores avec des paquets de sons dans les sacs à dos.
Écoute la montagne.
Elle te parle. Voilà, et bien si vous voulez nous retrouver, peut-être tu peux donner les références de nos blogs et tout ça.
Oh bah ça fait un petit bail, hein, mais donc le blog... Lui est approuvé, c'est le nom de l'émission, sur nos blogs. Ouais. Voilà, on peut taper ça dans le moteur de recherche. Et l'adresse mail, c'est lui est approuvé, @...
Guyade.
Guyade, GWIAD.
orgue.
Voilà.
Rempli à deux. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours, peut-être. Mais alors, rien n'est moins sûr. Suspense. En tout cas, on vous souhaite une agréable soirée.
Salut.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.